Europe 1, il est 22h. Le journal, Rémi Bossaron.
43 lampadaires s'allumeront chaque soir pour ne pas oublier que ces victimes ont perdu injustement la vie alors qu'elles allaient au travail ou partaient en vacances.
2 ans pratiquement jour pour jour après l'effondrement du pont Morandi, l'Italie inaugurait fièrement ce soir le nouveau pont de Gênes, cérémonie spectaculaire en l'absence des familles des victimes. Juan Carlos, en exil, l'ancien roi d'Espagne qui avait abdiqué face au scandale qui entachait son règne, a cette fois décidé de quitter son pays. Il est soupçonné de corruption et visé par une enquête de la Cour suprême. Ne pas baisser la garde face au Covid-19, c'est le discours martelé par Jean Castex en déplacement aujourd'hui à Lille, où le port du masque est désormais obligatoire dans certaines zones.
L'objectif est simple, nous protéger contre ce virus en évitant la perspective d'un reconfinement généralisé.
Nous irons aussi en Mayenne et en Allemagne pour faire le point sur l'évolution d'une épidémie contre laquelle il n'y aura peut-être jamais de remède miracle, avertit l'OMS aujourd'hui. Et puis, nous parlerons de l'orgue de Notre-Dame qui se réapproprie les lieux à partir depuis quelques heures. Sa restauration a débuté. Nous vous raconterons ce chantier hors norme.
Il y a des tuyaux qui font plus de 10 mètres de haut. Il y a des tuyaux qui font moins d'un demi centimètre. Si vous les manipulez un petit peu trop violemment, on perd le son du tuyau.
La météo complète, ce sera évidemment à la fin de ce journal avec Valérie Darmon. Et puis comme chaque soir, cet été, on vous proposera un peu de lecture avec les conseils de Stéphane Place. Et on écoutera une belle idée qui illumine la crise que nous vivons avec François Claus.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Après l'abdication, l'exil donc pour Juan Carlos, l'ancien roi d'Espagne soupçonné de corruption, a décidé de quitter son pays. Il l'a annoncé dans une lettre écrite à son fils, le souverain Felipe VI. Juan Carlos avait abdiqué il y a 6 ans alors que son règne était entaché par des scandales liés notamment à ses relations avec la famille royale saoudienne. Il est aujourd'hui visé par une enquête de la Cour suprême pour une affaire de corruption présumée liée justement à l'Arabie saoudite. Mais au-delà de ces affaires, Juan Carlos, par ce départ, note le rejet que suscite la maison royale chez une grande partie des Espagnols, selon Gabriel Colomé, maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Barcelone.
Il pourrait y avoir un mouvement contre le roi émérite qui questionne la monarchie, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'Espagne, des Espagnols qui ne sont pas monarchistes, qui en plus une partie des partis de gauche se rappelle qu'il a été faire roi au prince par le franquisme. Et là, les nouvelles générations n'ont plus de mémoire. C'est-à-dire qu'ils ne se rappellent pas ce que Juan Carlos a fait pour la transition. C'est-à-dire, pour eux, pour les étudiants de 20 ans, Juan Carlos, c'est une personne qui est dans un livre d'histoire et qui, pour eux, c'est une personne qui, bon, devrait être jugée. Et il part parce qu'il a compris qu'il met en danger la monarchie et le roi.
Gabriel Colomé, maître de conférence à l'Université de Barcelone, est interrogé par Damien Mestre après l'abdication et donc l'exil surtout ce soir de Juan Carlos. Il y a 2 ans, donc pratiquement jour pour jour, 43 personnes trouvaient la mort dans l'effondrement du pont Morandi à Gênes. Ce soir, la ville portuaire peut fièrement présenter au monde son nouveau pont, construit à toute vitesse. D'ailleurs, cette fierté, c'est celle de toute l'Italie. Elle était bien sensible dans cette cérémonie que vous avez suivie pour nous depuis l'Italie, Blandine Gonnet.
Une minute de silence et la lecture des noms des 43 victimes. C'est ainsi que l'inauguration a commencé. Une cérémonie voulue commémorative plus que festive. En présence des plus hautes autorités, sous la pluie à l'entrée du nouveau viaduc, tous sont tenus avant tout à rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie ici il y a 2 ans, comme le président du conseil qui a pris la parole.
43 lampadaires s'allumeront chaque soir pour ne pas oublier que ces victimes ont perdu injustement la vie alors qu'elles allaient au travail ou partaient en vacances.
Voici un pont qui est le fruit de l'énergie créative du génie italien. Près de 2000 ouvriers y ont travaillé sans relâche pour réaliser cette admirable structure.
La fierté de Giuseppe Conte, partagée aussi par les Italiens. Terminée en une année de travaux titanesques, le viaduc d'1 kilomètre s'élève désormais à 45 mètres de hauteur. Un nouveau trait d'union entre les deux versants de la ville que les Génois vont pouvoir à nouveau emprunter dès mercredi avec la réouverture du pont à la circulation. Rome, Blandine Gonnet, Europe 1.
Jean Castex portait bien son masque aujourd'hui lors de sa visite dans la métropole lilloise, une métropole où le port de ce masque est désormais obligatoire. Et le Premier ministre voulait manifestement montrer qu'il était lui-même très vigilant. Le virus n'est pas en vacances, nous non plus, ce sont ses mots. Il a aussi prononcé une sorte de mise en garde, Maximilien Carlier. Vous avez suivi ce déplacement pour Europe 1. Le Premier ministre l'a bien dit, il s'agit désormais d'éviter le reconfinement généralisé.
Oui, exactement. Et c'est bien ce message-là qu'a voulu faire passer le Premier ministre lors de sa déambulation dans le centre-ville de Lille. Un tour sur la Grand Place, puis place Riour, zone très fréquentée, et beaucoup d'échanges avec les policiers municipaux sur le port du masque.
Comment ça se passe? Les gens le font volontiers?
Oui, après c'est la sensibilisation, c'est de la prévention. Après, bon, on a toujours des gens récalcitrants, mais on fait avec. Voilà. On essaie de leur faire retrouver la raison.
Parfait. Le Nord et Lille montrent le chemin, c'est bien.
Voilà. Depuis ce matin, la mesure est globalement respectée. Il faut dire qu'on retrouve des affiches avec logo partout sur le port du masque obligatoire, alors que les indicateurs ne sont pas bons, surtout dans la métropole lilloise. Elle concentre près de 80% des nouveaux cas de Covid dans le département. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas baisser la garde, selon Jean Castex.
L'objectif est simple, nous protéger contre ce virus sans faire arrêter la vie économique et la vie sociale, c'est-à-dire en évitant la perspective d'un reconfinement généralisé.
Et le Premier ministre l'a répété à plusieurs reprises, de la prévention, oui, mais bientôt plus de fermeté. 135 euros d'amende pour le non-port du masque. L'arrêté est valable un mois et il peut être reconduit, a fait savoir le préfet.
Maximilien Carlier à Lille pour Europe 1. Et depuis ce week-end, la liste des villes qui imposent le masque en extérieur ne cesse de s'allonger. On peut citer Biarritz, Bayonne, La Rochelle, Nice, Le Touquet ou Orléans. C'est le cas également pour 69 communes de la Mayenne. La Mayenne où 192 000 habitants doivent se plier eux aussi à cette obligation pour enrayer une circulation du virus qui est toujours très active, cher Guyard.
En effet, il est désormais interdit de sortir dans la rue sans masque dans 69 communes de la Mayenne, un dispositif qui existait déjà dans les 4 plus grandes villes du département, notamment Laval, depuis une semaine. Un soulagement pour Alain, qui ne comprenait d'ailleurs pas pourquoi chez lui, à quelques kilomètres de la préfecture, Saint-Berthevin n'était pas encore concerné par la mesure.
La décision qui avait été prise, elle n'est pas logique si vous voulez. Pourquoi plus Laval que Saint-Berthevin? Ça circule autant ici.
Un virus qui circule en effet partout ou presque en Mayenne, selon l'Agence régionale de santé. Ce qui a donc conduit le préfet du département à agir au plus vite, Jean-Francis Treffel.
On peut être contaminant sans le savoir, alors que l'on n'a aucun symptôme, et c'est pourquoi le port du masque a été rendu obligatoire. L'ensemble des mesures prises ont pour vocation à éviter tout reconfinement de notre département, qui est une solution que je n'envisage pas à ce stade.
La perspective d'un reconfinement, voilà qui inquiète particulièrement Nicolas.
Ça, c'est quelque chose que je n'aimerais pas vraiment revivre. C'était quand même très long. J'espère que ça ne sera pas le cas sur la Mayenne.
La Mayenne, qui, rappelons-le, ne compte toutefois qu'une douzaine de malades hospitalisés à ce jour et aucun patient en réanimation.
Charles Guyard, merci. Correspondant dans l'ouest de la France pour Europe 1. À l'étranger, les mesures restrictives se multiplient de nouveau sur tous les continents, dans des proportions parfois spectaculaires. Aux Philippines, ce sont plus de 27 millions de personnes qui seront reconfinées à partir de demain. Et à Melbourne, tous les commerces non essentiels devront fermer leurs portes à partir de jeudi. Un couvre-feu nocturne est entré en vigueur dans la deuxième ville d'Australie. À l'aéroport de Berlin, en Allemagne, les voyageurs en provenance des 127 pays considérés comme à risque ont le choix. C'est soit la quarantaine obligatoire, soit un test de dépistage, pour l'instant facultatif. Le reportage d'Hélène Cole.
À la descente d'avion, le choix est vite fait. Pour éviter la contrainte de la quarantaine ou pour tous ceux qui reprennent le travail bientôt, c'est la ruée sur le centre de tests gratuits que le Grand Hôpital de Berlin a installé dans le terminal des arrivées. Ce couple revient de Turquie avec des enfants qui reprendront l'école dans une semaine.
C'est rassurant de savoir que s'il y a un problème, on ne va pas contaminer d'autres personnes.
On n'a pas réussi à avoir un rendez-vous dans des laboratoires en ville, donc je trouve ça très bien qu'on puisse se faire dépister ici.
Pour l'Europe, seuls les touristes rentrant du nord de l'Espagne ou du Luxembourg sont concernés. Quand on arrive de France, de Grèce ou d'Italie par exemple, le test est juste recommandé. Ils sont nombreux à faire la démarche, comme cette jeune femme.
Comme ça, on pourra rassurer notre famille, leur dire qu'on est négatif et qu'on pourra se voir sans risque.
Le ministre de la Santé voulait rendre ces tests obligatoires pour tous dès ce matin, mais il a admis ce midi qu'il faudrait un peu de temps pour que les laboratoires se mettent en ordre de bataille. À Berlin, c'est 30 à 40 minutes d'attente en moyenne, mais dans les gros aéroports comme Francfort ou Munich, il faut s'armer de patience et parfois attendre plus de 2 heures. Berlin, Hélène Cole, Europe 1.
Et toutes ces mesures, ces dispositifs mis en place pourraient durer, si l'on s'en tient à ce qu'affirme confirme l'OMS aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'il n'y aura peut-être jamais de panacée contre la pandémie de Covid-19. Même si les essais cliniques nous donnent de l'espoir, cela ne veut pas nécessairement dire que nous aurons un vaccin efficace. Déclaration du directeur général de l'organisation, alors que la pandémie a déjà fait au moins 689 000 morts dans le monde.
Europe 1, le journal de la nuit. Rémi Botsaron.
Deux militaires rattachés à la DGSE ont été mis en examen et écroués à Paris dans le cadre d'une affaire de tentative de meurtre. Ces deux hommes sont affectés au centre d'entraînement des espions français à Saran, près d'Orléans. Ils ont été arrêtés il y a 10 jours en possession de plusieurs armes alors qu'ils s'apprêtaient à commettre un règlement de compte d'ordre privé. Selon nos confrères du Parisien, un troisième homme, un civil, a lui aussi été arrêté et incarcéré. Nouvelle mise en examen pour Sanofi dans le scandale de la Dépakine. Le laboratoire français était déjà poursuivi pour blessures involontaires et tromperies aggravées. Il est désormais mis en examen pour homicides involontaires. Une enquête a été ouverte en 2016, initiée par des familles de victimes. Elles accusent Sanofi d'avoir tardé à informer des risques du médicament pour les femmes enceintes. Écoutez la réaction de Marine Martin, présidente de l'association d'aide aux parents d'enfants victimes.
C'est une très grande victoire pour les familles de victimes. On attendait ça depuis longtemps. Moi, ça fait des années que je reçois des appels de mamans qui ont perdu un bébé suite aux malformations engendrées par la dépakine pendant la grossesse. Je pense que le grand public ne sait pas que la dépakine tue. Est-ce qu'on se rend compte que c'est des centaines et des centaines d'enfants qui sont décédés parce que on n'a pas informé les femmes épileptiques enceintes qu'avec la dépakine, elles risquaient de tuer leur bébé in utero ou même par la suite, les malformations, ils ne survivraient pas à toutes ces atteintes-là, quoi. Donc, pour toutes ces femmes, pour tous ces enfants disparus, c'est important symboliquement.
Comment est-ce que vous réagissez à l'attitude du groupe pharmaceutique Sanofi dans ce dossier ?
L'attitude de Sanofi, elle est fidèle à ce qu'elle a toujours été. Elle est abjecte, elle est immonde. Ils nous méprisent. Ils refusent dans les procédures, que ce soit aux civils, de payer ce qu'ils doivent payer quand ils sont condamnés. On est vraiment en colère et on lâchera rien parce qu'ils ont une attitude complètement amorale vis-à-vis des victimes.
Marine Martin au micro de Guillaume Bier. La vente ou la fermeture. TikTok est désormais face à ce choix imposé par la Maison Blanche. Le réseau social très populaire chez les jeunes fermera le 15 septembre aux États-Unis, sauf s'il est racheté. C'est Donald Trump lui-même qui l'a annoncé, le président américain, qui soupçonne la plateforme d'être utilisée par les services de renseignement de Pékin. Et voilà que Microsoft arrive à la rescousse. Le géant américain est candidat au rachat de l'application sur le territoire des États-Unis. Alors, est-ce que ça va rassurer Donald Trump, Clément Le Saffre?
C'est en tout cas l'intention de Microsoft. Le géant américain a fait savoir qu'il comptait reprendre la branche américaine de TikTok en y ajoutant, je cite, « une couche de sécurité et de protection de la vie privée de très haute qualité ». De quoi tempérer un peu les inquiétudes de Donald Trump sur d'éventuels transferts de données vers la Chine. Le président américain assure que les renseignements chinois piochent allègrement dans les données des utilisateurs de TikTok. Ces accusations ne sont pas nouvelles et le réseau social a toujours démenti de telles pratiques. La date butoir des négociations pour le rachat a été fixée au 15 septembre. Pionnier de l'informatique aujourd'hui ringardisé par Google, Apple, Facebook et Amazon, Microsoft pourrait, si la vente aboutissait, renouer avec une cible clé, les jeunes. Les moins de 30 ans représentent en effet 40% des utilisateurs de TikTok, de quoi offrir une seconde jeunesse à Microsoft. L'annonce de la poursuite des négociations a d'ailleurs fait décoller l'action du groupe, plus 4% à l'ouverture de Wall Street.
Merci Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1. C'est un chantier dans le chantier, celui du grand orgue de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui avait été épargné malgré l'incendie du mois d'avril 2019. Bonsoir Laure d'Autriche, c'est ce que l'on peut considérer comme la voie de Notre-Dame et qui va donc être restaurée au cours d'opérations qui vont se dérouler en plusieurs étapes.
Oui, le démontage de l'instrument va se faire progressivement. Dès aujourd'hui, le démontage des 5 claviers, puis des 8000 tuyaux. Cette étape-là va se poursuivre jusqu'à Noël. Même si l'orgue n'a pas été touché par les flammes, il est recouvert aujourd'hui de poussière de plomb et il faut tout décontaminer puis entamer la phase de restauration. C'est un énorme chantier. L'orgue est très fragile, dit Olivier Latrie, l'organiste de Notre-Dame.
C'est composé de milliers de pièces de bois, de plomb et j'en passe. Il y a des tuyaux qui font plus de 10 mètres de haut. Il y a des tuyaux qui font moins d'un demi-centimètre. Si vous les manipulez un petit peu trop violemment, ben on perd le son du tuyau. Il y a un rapport presque charnel à cet instrument. J'y ai passé des heures, de jours, de nuits à travailler, à enregistrer, à jouer des concerts, à jouer des offices. Je me sens un petit peu... un petit peu orphelin et j'attends vraiment la résurrection.
Il va donc falloir nettoyer l'orgue de Notre-Dame, le restaurer bien sûr, et puis le remonter et faire tous ses réglages prendra plusieurs années. C'est un joyau qui date de 1733, un monument d'une valeur inestimable. Cet orgue fait partie des deux orgues les plus grands de France et il est aussi connu pour sa qualité incroyable d'un point de vue sonore. Il faudra 6 mois à la toute fin pour accorder l'orgue et qu'on le retrouve finalement tel qu'il était avant l'incendie, et cet orgue devrait pouvoir être joué à nouveau en 2024.
Merci pour vos explications, Laure d'Autriche. Un mot de sport et un peu plus de 3 semaines du départ du Tour de France. Le tenant du titre, Egan Bernal, confirme son statut de favori. Le Colombien s'est imposé en solitaire dans la grande étape de montagne de la route d'Occitanie. Au col de Bayred, il prend la tête du classement général. Et puis prenons un peu de hauteur, encore plus direction Mars, une planète qui hébergeait peut-être d'immenses glaciers il y a plusieurs milliards d'années, c'est ce que suggère une étude canadienne publiée aujourd'hui. Les scientifiques s'accordent déjà pour affirmer que l'eau était présente en abondance autrefois sur Mars, mais si des glaciers ont pu façonner des vallées, c'est qu'il faisait beaucoup plus froid qu'on l'imaginait jusqu'à présent sur ce qu'on appelle aujourd'hui la planète rouge. Il fait plus chaud en France, la météo.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Bonsoir Valérie Darmon, il faisait sans doute très froid sur Mars et il va se faire de plus en plus chaud. La météo s'améliore ce mardi sur Terre quasiment partout.
Oui, quasiment partout parce que les restes de la perturbation d'aujourd'hui stagnent sur les frontières de l'Est avec quelques averses et même des flocons encore possibles sur les Alpes du Nord à partir de 2400 mètres d'altitude. Sur les régions du Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne, le ciel va rester très chargé en matinée, mais là aussi les éclaircies vont gagner du terrain au fil des heures. Plus à l'ouest, les éclaircies dominent dès la dissipation des grisailles du matin, notamment sur la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. C'est sur le nord de la Corse que les averses localement orageuses vont se maintenir toute la journée et dans une moindre mesure sur les Alpes-Maritimes dans l'après-midi. La tramontane souffle toujours modérément et le mistral se renforce, les rafales atteignant 90 km/h, les maximales entre 21 à Lorient et 31 à Montpellier.
Merci Valérie Darmon. Europe 1. Dans un instant, un livre pour l'été, les conseils lecture de Stéphane Place avec la librairie Mola à Bordeaux. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le journal de la nuit.
Un livre pour l'été, comme tous les soirs, on retrouve Stéphane Place pour un conseil de lecture bien précieux en collaboration avec la prestigieuse et indépendante librairie Mola à Bordeaux. Au menu ce soir, non pas une histoire, mais une succession d'histoires, des histoires d'escroqueries. Certaines ont marqué les mémoires, évidemment, et vous allez découvrir que des hommes ou des femmes qui se font escroquer, ça existe depuis bien longtemps.
Jeanne de Lamothe, qui dupe le cardinal de Rouen et lui extorque une somme astronomique, c'est l'affaire du collier de la reine, le diamant de synthèse qu'invente Henri Lemoine, Charles Ponzi, qui donne son nom à cette célèbre pyramide, montage financier frauduleux ayant fait tant d'émules, parmi lesquels Bernard Madoff, et bien d'autres arnaques encore dans ce livre qui recense les plus belles histoires de l'escroquerie. Un ouvrage qui nous raconte le détail des mécanismes employés, des ruses utilisées. Christian Chavagneux retrace, et il le fait formidablement bien, ces affaires retentissantes au fil des siècles. Une lecture que vous conseille Pierre Coutel, libraire chez Mola.
Pour chaque histoire, à la fois, il raconte très bien l'anecdote, si l'on veut, de l'escroquerie elle-même, et après, en économiste qu'il est, il essaye de démonter les mécanismes économiques qui fait qu'on va croire dans une pyramide de Ponzi, qui fait que Madoff va réussir à séduire des centaines ou des milliers de gens, qui fait qu'effectivement le collier de la reine va être cette affaire qui aura cette importance si grande à la veille de la Révolution française. La force de Christian Chavagneux, c'est d'articuler deux choses, à la fois cette lecture économique et puis progressivement une lecture qui est presque aussi un peu psychologique, qui est la question de la croyance. Alors il prend un exemple évidemment très cocasse, qui est qu'un psychologue spécialiste de la croyance a confié ses économies à Madoff. Et il montre comment, effectivement, pour avoir quelqu'un qui se fasse escroquer, il faut avoir quelqu'un qui ait envie de croire.
La crédulité, facteur déterminant pour des escrocs qui ne manquent généralement ni d'imagination ni d'audace, et ce n'est pas leur seul point commun, remarque l'auteur Christian Chavagneux.
Tous les escrocs et les escroques que j'ai trouvés dans mon livre partagent une caractéristique psychologique. Ce sont des pervers narcissiques. Dans l'enfance, ils ont tous été victimes d'un manque d'empathie, d'un manque d'amour de la part de leurs parents. Et pour compenser ce manque d'empathie, il a fallu qu'ils surjouent le fait que ce sont des gens importants. Donc ils vont à chaque fois développer un instinct de prédation, c'est-à-dire ce qu'on ne leur a pas donné quand ils étaient enfants, ils vont le prendre eux-mêmes. Ce sont des gens absolument sans aucun sentiment. Madoff, un de ses fils se pend. Il y a un professeur d'université qui est en train d'enquêter sur lui, qui l'a au téléphone le lendemain. Il lui dit, de toute façon, il n'a jamais été capable de soutenir l'attention. Son autre fils, qui avait déjà échappé à un cancer, le cancer revient à cause de l'affaire de son père. Il dit à ce même professeur d'université, vous pouvez me lire la nécro ? Ah, d'accord, merci. Je peux vous poser une question ? Au fait, les choses sur les taux d'intérêt que vous avez demandé hier, vous avez trouvé la solution ? Enfin, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui n'a absolument aucune empathie. Ils partagent tous cette même caractéristique d'être des pervers narcissiques avec un instinct de prédation extrêmement fort.
Plus dure sera la chute pour des escrocs qui ne sont pas des Robin des Bois, comme le montre cet essai, bien écrit et très agréable à lire.
Le conseil de lecture très tentant comme tous les soirs de Stéphane Place. Et puis l'autre rendez-vous estival sur Europe 1 tous les soirs, c'est la bonne idée. Nous allons retrouver François Claus pour saluer une initiative, une action quelque part en France qui montre que certains se mobilisent, innovent après cette crise que nous connaissons tous ce soir. C'est une initiative qui bénéficie aux métiers d'art.
Bonsoir Anne-Sophie du Royon-Chavannes.
Bonsoir.
Vous avez eu la très belle idée de mettre en place cet été une plateforme, et on va en donner les coordonnées dans un instant, qui permet aux touristes, et ils sont nombreux d'avoir choisi la France pour leurs vacances, et bien de profiter de ces vacances quand ils redécouvrent leur pays, d'aller à la rencontre des artisans et de tous ces métiers d'art qui se font dans nos régions, dans nos villes. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer cette initiative ?
Pendant le confinement, on a fait une analyse du secteur et on s'est rendu compte qu'ils avaient de grandes difficultés à vendre, puisqu'ils vendent quasiment la totalité de leurs produits via des fois des salons. Donc on a réfléchi à un grand plan de relance pour relancer le secteur, et puis on a eu l'idée de cette campagne de communication pour pousser les Français qui restent sur le territoire, de pousser les des ateliers, d'aller à la rencontre des artisans avec trois objectifs. Qui sont valoriser ces métiers d'art et comme un patrimoine immatériel en France. Également créer des vocations, c'est un secteur qui recrute et donc qui a des possibilités pour les jeunes générations et les personnes en reconversion. Et aussi faire découvrir les produits qui sont fabriqués par ces professionnels, qui sont des produits qui sont durables, de proximité et souvent avec des chefs d'entreprise qui sont investis et qui ont portent du sens par rapport à leurs produits.
Alors, si vous êtes en France, dans une région, vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez institut-métier, pluriel, d'art, tout collé, D-A-R-T à la fin, et vous aurez ainsi la possibilité de découvrir ces métiers. Quelques exemples, à peu près toutes, vous avez balisé à peu près toutes les régions françaises. Hein.
Exactement. Sur l'intégralité du territoire, on retrouve des professionnels des métiers d'art, soit des ateliers, soit des usines qui se visitent, ou alors on retrouve aussi sur les marchés et on les retrouve dans l'intégralité du territoire. Alors on va avoir des potiers, on va avoir des chausseurs, on va avoir des fabricants de parapluies, on va avoir également des verriers et toute une série de métiers. Il y a 281 métiers d'art en France. On encourage vivement les Français à les découvrir.
Oui, c'est une des grandes spécificités de notre pays. On peut découvrir également des métiers assez originaux. Je voyais notamment les artisans qui travaillent, par exemple, à Lave, en Auvergne. Il y a ces spécificités qui font le terroir français. Et vous nous dites, allez à leur rencontre aujourd'hui, Anne-Sophie du Royon-Chavannes.
Exactement, aller à leur rencontre pour découvrir leurs produits. Et puis, on a aussi un concours photo avec la plateforme WePlay, pour encourager les Français à s'interroger sur cette matière, parce que la matière, elle vient aussi en lien avec les produits qui sont fabriqués. Voilà, vous parliez de la lave d'Auvergne. Ben pourquoi on travaille la lave en Auvergne ? Parce que c'est là où on la trouve.
Merci beaucoup d'avoir été, Anne-Sophie du Royon-Chavannes, en direct sur Europe 1. C'était notre belle idée du soir. Je rappelle, hein, Géraldine, institut-métier pluriel d'art, tout collé. Vous allez faire de très belles découvertes cet été. En France.
Merci beaucoup.
La belle idée donc de François Claus qu'on retrouvera tous les soirs sur Europe 1. Et dans un instant, on jettera comme tous les soirs également un œil sur les unes de la presse qui vous attend demain en kiosque. Mais d'abord, comme tous les soirs toujours, une petite touche de musique, petite touche belge ce soir. Écoutez Noé Préchoff, la chanson s'appelle « À nous ».
«
Qu'allez-vous trouver dans votre kiosque demain à la une des journaux? Eh bien, par exemple, à la une de Libération, retour sur la visite de Jean Castex. Donc, je vous parlais d'il y a quelques minutes à Lille, dans la métropole lilloise, où le masque est désormais obligatoire dans certaines zones. Oh, les masques! C'est le titre de Libération en une. Jean Castex qui est donc allé rappeler à Lille l'importance de se couvrir le visage. Et Libération qui s'intéresse également aux anti-masques, ceux qui refusent de porter cette protection. Le masque en une également, en partie d'aujourd'hui en France, le masque parmi les tops de l'été, les tops et les flops de l'été, c'est le titre de cette une sur aujourd'hui en France. On voit les masques, on voit le vélo également, grand succès de l'été auprès des Français, alors que les flops, on le voit en photo, c'est l'avion évidemment que les Français ne peuvent ou ne veulent plus prendre, également cette application Stop Covid qui a connu un très faible succès en une d'aujourd'hui en France. Et puis en une du Figaro également, un titre que nous avons développé dans le journal, TikTok au cœur de la guerre commerciale Washington-Pékin, mais le Figaro s'intéresse également à ce sport français qui joue sa survie à la rentrée. C'est le titre de une, les acteurs du sport professionnel qui restent à la merci du virus et ne sont pas à l'abri d'un effondrement économique. Et puis enfin, si on regarde du côté de Ouest-France et de l'Ouest de la France, de la Bretagne, eh bien c'est une visée internationale pour nos amis de Ouest-France avec Meurtri, Gênes retrouve son pont, c'est le titre de une. On s'intéresse évidemment à ce nouveau pont de Gênes inauguré aujourd'hui en grande pompe, mais sans les familles des victimes, 2 ans pratiquement, jour pour jour après l'effondrement du pont Morandi qui avait fait 43 morts. 22h30 et passé de quelques secondes, on a parlé des unes de demain à la une ce soir, c'est évidemment Sabine Marin que l'on retrouve au 39-21 si vous voulez lui parler et parler à tous les auditeurs qui vous écoutent pour la Libre Antenne.
Bonsoir Rémi.
Bonsoir, vous allez bien?
Ça va, merci. Et on se retrouve nous dans une demi-heure pour les prochaines infos.
Absolument.
À tout à l'heure.